Chapitre 21. La nuit était tombée. La Jaguar quitta la voie express pour rejoindre le terminal 3 de l'aéroport JFK. Elle passa les portiques d'entrée du parking longue durée et suivit la rampe hélicoïdale qui s'enfonçait sous terre, desservant les 6 niveaux du parc de stationnement. « Il faut absolument que tu changes de vêtements », affirma Sébastien en se garant en marche arrière. Ils avaient quitté la maison dans la précipitation sans avoir pris le temps de se doucher ni de se changer. Nikki considéra ses habits. Ils étaient déchirés et tachés de sang. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur. Son visage était marqué par les coups, sa lèvre fendillée, ses cheveux toujours collés. « Si tu te balades comme ça dans le terminal, il ne se passera pas 3 minutes avant que les flics ne nous tombent dessus. » Elle attrapa le sac de sport posé sur la banquette arrière, se changea rapidement, enfila en se contorsionnant un bas de survêtement, un sweatshirt à capuche, une paire de baskets et noua ses cheveux. Puis ils prirent l'ascenseur jusqu'à la zone des départs, passant sans encombre les contrôles d'identité et les portiques de sécurité qui menaient aux portes d'embarquement. Alors qu'ils pénétraient dans l'avion, le téléphone de Sébastien vibra. C'était Camille. Elle était encore dans le train qui la conduisait à Long Island dans la maison de sa grand-mère. Comme souvent, le Long Island Railroad avait du retard. Mais elle était d'humeur joyeuse et surtout ne semblait plus fâchée contre lui. « Je suis impatiente que mamie me fasse griller des châtaignes dans la cheminée », s'enthousiasma-t-elle. Heureux d'entendre sa fille de bonne humeur, Sébastien esquissa un léger sourire. Pendant une fraction de seconde, il se rappela les jours heureux, lorsque les jumeaux étaient enfants et que Nikki et lui les emmenaient cueillir des châtaignes dans les forêts du Maine. Les promenades au grand air, le craquement de l'écorce que l'on incise, la chaleur des braises de la cheminée, le tintement métallique de la poêle trouée. L'odeur savoureuse qui remplissait la pièce, les doigts noircis, la crainte délicieuse de se brûler au moment d'éplucher les fruits rôtis. « Vous avez des nouvelles de Jérémy ?» La question de Camille le ramena à la réalité. « On va le retrouver, chérie, ne t'inquiète pas. Tu es avec maman ?»« Oui, je te la passe. » Sébastien tendit le combiné à son ex-femme et avança dans l'allée centrale de l'Airbus. Arrivé à leur place, il rangea leur sac dans le coffre à bagages avant de s'asseoir. « Tu n'oublies pas de nous prévenir si tu as la moindre nouvelle de ton frère », rappela Nikki à sa fille. « Mais vous êtes où, au juste ?» demanda Camille. « Dans un avion, » bafouilla-t-elle. « Tous les deux ? Pour aller où ?» Mal à l'aise, Nikki s'empressa de mettre un terme à la conversation. « Je dois te laisser, chérie. On va décoller. Je t'aime. Mais, maman... » Nikki raccrocha et rendit son appareil à son ex-mari avant de se glisser jusqu'à sa place à côté du hublot. Sébastien la regarda s'enfoncer dans son siège et se cramponner à ses accoudoirs. À l'époque de leur mariage déjà, elle était anxieuse lorsqu'elle prenait l'avion. Avec le temps, les choses ne s'étaient visiblement pas arrangées. Contractée, les muscles tétanisés, Nikki scrutait les hôtesses, les stewards et détaillait les autres voyageurs. À travers le hublot, elle observa, méfiante, les avitailleurs, les bagagistes et les centaines de lumières qui balisaient les voies de circulation. Le moindre bruit, le moindre comportement suspect renforçait son imagination qui élaborait 1001 scénarios catastrophes. Sébastien essaya de la raisonner. L'avion est le moyen de transport le plus sûr. Épargne-moi tes discours, le rabroua-t-elle en se recroquevillant dans son fauteuil. Elle soupira et ferma les yeux. Elle ployait sous le poids de la fatigue accumulée, du stress, de la peur de savoir son fils en danger, de tout ce qu'ils avaient vécu ces dernières heures. Elle aurait eu besoin de courir 20 kilomètres ou de se défouler en cognant dans un sac de sable, pas d'être confrontée à l'une de ses pires phobies. Son souffle était court, sa gorge sèche. Elle n'avait bien sûr pas eu le temps d'emporter son tube d'anxiolytique. Pour se déconnecter du réel, elle coiffa les écouteurs du baladeur de son fils et se laissa porter par la musique, reprenant peu à peu le contrôle de sa respiration. Elle commençait à se détendre lorsque l'hôtesse lui demanda d'éteindre son iPod. Nikki obtempéra de mauvaise grâce. Titanesque, démesurée, l'énorme A380 arriva en début de piste et marqua une pause avant de prendre son élan. « Décollage imminent !» prévint le commandant. Le pilote mit les gaz et le long courrier, avalant le béton, fit vibrer la piste de tout son poids. Nikki se sentait ballottée, secouée au bord de l'apoplexie. Faire voler un appareil de 500 tonnes ne lui avait jamais paru naturel. Sans être claustrophobe, elle ne supportait pas d'être ligotée sur un siège privée de tout mouvement pendant 7 ou 8 heures. une anxiété qui pouvait rapidement se changer en angoisse, voire en panique. Par-dessus tout, dès qu'elle pénétrait dans un avion, elle avait l'impression d'abdiquer toute liberté, de n'avoir plus aucun contrôle de la situation. Alors que la vie lui avait appris à ne compter que sur elle-même, elle ne supportait pas de s'en remettre à un pilote inconnu et invisible. Arrivée en bout de piste, le monstre de fer arracha difficilement sa lourde carcasse à la terre ferme. Oppressée, fébrile, Nikki gigota sur son siège jusqu'à ce que l'avion atteigne les 15 000 pieds. Dès que cela fut autorisé, elle ralluma le baladeur et se pelotonna sous une couverture. 10 minutes plus tard, contre toute attente, elle dormait, à point fermé. Lorsqu'il fut certain que Nikki était endormie, Sébastien se tourna vers elle, éteignit la lumière de son plafonnier, remonta la couverture et baissa la climatisation pour ne pas qu'elle prenne froid. Malgré lui, il resta plusieurs minutes à l'observer dans son sommeil. Elle semblait si fragile, alors que l'après-midi même, elle défendait avec vaillance leur vie. Un steward lui proposa quelque chose à boire. Il descendit d'un trait sa vodka on the rocks et en commanda une deuxième. Ses yeux étaient brûlants de fatigue. Une douleur sourde et continue irradiait le haut de sa nuque, lui donnant l'impression d'avoir l'arrière de la tête compressée dans un étau. Il se massa les tempes pour soulager la douleur. Dans la cacophonie et le chaos de son esprit, il essaya de trouver un sens à l'absurdité de cette situation. Vers quel danger était-il en train de voler? Quel ennemi combattait-il? Pour quelle raison en voulait-on autant à Jérémy? Pourquoi avait-il commis la folie de ne pas demander l'aide de la police? Comment cette histoire pourrait-elle se terminer autrement qu'en prison? Les 12 dernières heures avaient été les plus éprouvantes de sa vie, les plus inattendues aussi. Lui qui avait toujours planifié son existence, jusque dans les moindres détails, luttant sans cesse pour éradiquer l'imprévu et s'employant avec une obsession maniaque à se maintenir dans les rails d'une vie rassurante, se retrouvait plongé dans l'inconnu. Cet après-midi, il avait découvert un cadavre éviscéré, s'était battu dans une mare de sang, avait tranché la gorge d'un colosse mesurant 2 fois sa taille, et ce soir, il était en route vers l'Europe avec une femme qu'il avait pourtant juré de rayer à jamais de sa vie. Il retira ses chaussures, ferma les yeux, mais il était trop agité pour s'endormir. Dans sa tête, les images du carnage se bousculaient, s'entrechoquant avec celles de la vidéo de l'agression de Jérémy. Peu à peu, pourtant, sous l'effet de la fatigue et du ronronnement de l'avion, une douce langueur commença à l'anesthésier, l'obligeant à baisser sa garde. À force d'essayer de comprendre le sens de cette journée, le fil de ses pensées l'amena au jour où il avait vu Nikki pour la première fois. Une rencontre-collision qui avait tenu à peu de choses. C'était il y a 17 ans, un 24 décembre, à New York, à quelques heures de Noël. Sébastien, 17 ans plus tôt. Pourquoi ne m'y suis-je pas pris avant? De Broadway à la 7e avenue, Macy's occupe tout un pâté de maisons. En ce 24 décembre, le plus grand magasin du monde est bondé. La neige qui tombe drue depuis le début de l'après-midi n'a dissuadé ni les New-Yorkais ni les touristes de venir faire leurs derniers achats avant le réveillon. Dans le hall, devant un immense sapin, une chorale reprend des chants de Noël tandis que clients et badauds s'agglutinent dans les escalators avant de s'éparpiller entre les 10 étages de la vénérable institution. Vêtements, produits de beauté, montres, bijoux, livres, jouets. Dans ce temple de la consommation, chacun poursuit sa quête. Qu'est-ce que je fous là? Un gamin surexcité me bouscule, une grand-mère m'écrase le pied, la foule me donne le tournis. Je n'aurais pas dû m'aventurer sur ces terres hostiles. Je suis tenté de rebrousser chemin, mais il me paraît difficile d'arriver au réveillon familial sans avoir trouvé un cadeau pour ma mère. J'hésite. Un carré de soie, peut-être? Mais n'est-ce pas ce que je lui avais déjà offert l'an dernier? Un sac à main? Ils sont hors de prix. Un parfum, alors? Mais lequel choisir? Pour mon père, c'est moins compliqué. Nous avons une sorte d'accord tacite mutuellement avantageux. Les années paires, je lui offre une boîte de cigares. Les années impaires, il a droit à une bouteille de cognac. Je soupire, regarde autour de moi, un peu perdu au milieu de tous ces gens décidés. J'étouffe un juron. Une vendeuse maladroite vient de m'asperger avec un parfum féminin. Cette fois, mon seuil de tolérance est atteint. J'attrape le premier flacon qui me tombe sous la main et me dirige vers la caisse la plus proche. Dans la file d'attente, je m'essuie le visage en maudissant l'employé qui me fait empester la cocotte. $53, monsieur. Alors que je sors mon portefeuille pour régler, j'aperçois une silhouette longiligne à quelques mètres de moi. Une belle fille, à la démarche assurée, s'apprête à quitter l'espace réservé aux cosmétiques. Nonchalamment drapée dans une cape en laine, elle arbore une allure féminine et sexy. Béret gris, jupe courte, très moulante, cuissarde à talons hauts, sac à main fashion. Monsieur ? Tandis que je cherche mes lunettes de vue dans la poche de ma veste, la caissière me ramène à la réalité. Je tends ma carte de crédit tout en ne quittant pas des yeux la belle inconnue pour la voir se faire alpaguer par un vigile. Takiwalki à la main, l'homme en noir lui demande fermement d'ouvrir sa cape. Elle s'insurge, gesticule, mais une trousse de maquillage camouflée sous son manteau tombe par mégarde sur le sol, trahissant son vol. Le vigile l'empoigne fermement par le bras et appelle du renfort par radio. Je récupère mon achat et me rapproche d'elle. Je remarque ses taches de rousseur, ses yeux verts, sa paire de longs gants en cuir. D'ordinaire, je ne me retourne pas sur les femmes. Manhattan grouille de filles sublimes, et puis je ne crois pas au coup de foudre. Mais là, c'est différent. C'est un de ces moments étranges qu'on a tous connus une fois, l'impression confuse d'avoir rendez-vous. Un instant rare. J'ai 3 secondes pour me décider et ne pas laisser passer ma chance. C'est maintenant ou jamais. J'ouvre la bouche sans savoir ce que je vais dire. Les mots sortent tout seuls, comme télécommandés. « Alors, Madison, tu te crois encore chez les bouseux ?» dis-je en lui balançant un coup de coude dans les côtes. Elle me regarde comme si je débarquais de Jupiter. Je me tourne vers le vigile. « C'est ma cousine, Madison. Elle vient du Kentucky. » Je regarde la trousse à maquillage. « C'est tout ce que tu as trouvé pour le cadeau de tante Bess ? Tu t'es pas foulée, ma vieille ?» D'un ton complice au gardien. « À part Walmart, elle ne connaît pas grand-chose. Elle pense que les caisses se trouvent toujours au rez-de-chaussée. » Pas un moment, il ne me croit, mais un esprit de fête règne dans le magasin et il n'a visiblement pas envie de s'embêter. Je propose de payer moi-même le maquillage et d'oublier l'incident. Puis je lance à la jeune femme « Tu me rembourseras plus tard, Madison ?»« c'est bon, » marmonne le vigile d'un ton las. D'un sourire, je le remercie de sa compréhension et le suis jusqu'à la caisse. Je règle l'achat en vitesse, mais lorsque je me retourne, la belle inconnue a disparu. Je prends l'escalator à contresens, dévale les marches 4 à 4, traverse le rayon des jouets et bouscule quelques marmots avant de me retrouver sur la 34e rue. Il neige à gros flocons. Par où est-elle partie ? À droite ? À gauche ? Une chance sur deux. Je décide de prendre à gauche. Je n'ai pas eu le temps de mettre mes lunettes, je suis myope comme une taupe, je ne la retrouverai jamais, c'est sûr. Glissant comme une patinoire, le bitume commence à givrer. Avec mon manteau et mes paquets, j'ai du mal à courir. Malgré la circulation, je me déporte sur la chaussée pour éviter la foule, mais le flux des voitures me fait rapidement regretter cette idée. D'un saut, je tente de rejoindre le trottoir, mais je suis emporté par mon élan et pars en glissade incontrôlée sur le sol. Ma chute n'est freinée que par une passante que je percute violemment. « Je suis désolé, » dis-je en me relevant. En me remettant debout, je cherche mes lunettes dans la poche de mon manteau, je les chausse et... C'est elle ? Encore vous ? Râle-t-elle en se redressant. « Vous êtes malade de foncer comme ça dans les gens ? Eh oh, vous pourriez me remercier quand même ! Je vous ai sorti du pétrin. Je ne vous ai rien demandé. Et puis, est-ce que j'ai une tête à venir du Kentucky ? » Quelle toupet ! Les bras m'en tombent. Elle frissonne. Je la regarde se frotter les épaules avec les mains. « Bon, on gèle. À un de ces jours, » dit-elle en s'éloignant. « Attendez, on pourrait peut-être aller boire un verre ?»« J'ai mon métro à prendre, » grimace-t-elle en désignant de la tête l'entrée de la station d'Herald Square, de l'autre côté de la rue. « Allez, un verre de bon vin au Bryant Park Café. C'est juste à côté et ça vous réchauffera. » Une moue évasive se dessine sur son visage. « Ouais, d'accord. » Mais ne vous emballez pas, vous n'êtes pas du tout mon genre. Le Bryant Park Café est situé derrière l'immeuble Beaux-Arts de la Bibliothèque de New York. En été, le parc est une petite oasis de verdure au milieu des gratte-ciels de Midtown. Une foule d'étudiants et de travailleurs du quartier viennent y faire une pause pour écouter un concert ou une lecture publique, jouer aux échecs ou déguster un hot dog. Mais en cette fin d'après-midi d'hiver, le paysage ressemble à une station de ski. À travers la vitre de la verrière, on distingue les passants emmitouflés dans d'épaisses parkas qui avancent difficilement dans la neige comme des esquimaux sur la banquise. Avant que vous ne me posiez la question, je m'appelle Nicky. Sébastien Larrabee, enchanté. Le café est plein à craquer. Par chance, nous avons hérité d'une petite table qui donne sur la patinoire. Il est un peu piquant ce vin, non? Demande-t-elle en reposant son verre.
Piquant? C'est un Gruau Larose 1982.
Très bien, ne vous vexez pas.
Vous savez combien il coûte? Et quelle note il a obtenue dans le guide Parker?
Non, et je m'en fiche pas mal. Je devrais le trouver bon seulement parce qu'il est cher?
Je secoue la tête et change de sujet.
Vous faites quoi pour le réveillon?
Elle me répond d'un ton détaché. Avec des copains, on squatte un vieil immeuble près des docks. On va boire des coups, fumer quelques joints, se défoncer. Si ça vous dit, d'y faire un tour.
Me saouler avec des squatteurs, non merci.
Tant pis pour vous. On ne peut pas fumer ici, n'est-ce pas?
Je ne crois pas, non.
Dommage.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiante?
Je prends des cours de théâtre et je fais des photos pour une agence de mannequins. Et vous?
Je suis luthier.
Vraiment?
Je fabrique et je répare des violons.
Oui, merci. Je sais ce qu'est un luthier, figurez-vous. Vous me prenez pour qui? Une attardée du Kentucky?
Elle reprend une gorgée de Saint-Julien.
Finalement, il n'est pas si mauvais, ce vin.
C'est pour qui, ce parfum?
Votre copine?
Pour ma mère.
La pauvre. Demandez-moi conseil la prochaine fois, vous éviterez les fautes de goût.
C'est ça, je vais demander des conseils à une voleuse.
Oh, tout de suite les grands mots. Sérieusement, ça vous arrive souvent, ce genre de chapardage?
Vous connaissez le prix d'un rouge à lèvres?
Faites-moi confiance. Les voleurs ne sont pas ceux que l'on croit, affirme-t-elle sans se dégonfler.
Vous pourriez avoir de gros ennuis.
Mais c'est pour ça que c'est excitant, dit-elle en montrant son sac.
J'ouvre de grands yeux. Le fourre-tout déborde de produits de beauté dont elle a consciencieusement découpé les codes-barres. Je secoue la tête.
Je ne comprends pas. Vous ne gagnez pas votre vie?
En fait, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça vient comme ça. Une envie irrépressible de voler. Une pulsion incontrôlable.
Vous êtes malade?
Kleptomane, tout au plus.
Elle hausse les épaules puis reprend.
Vous devriez essayer. La prise de risque, l'adrénaline, c'est très jouissif.
J'ai lu quelque part que les psychologues considéraient la kleptomanie comme un moyen de pallier une vie sexuelle peu satisfaisante.
Amusée, elle balait l'argument.
Psychologie de bazar! De ce point de vue, vous faites fausse route, mon vieux.
Dans son sac, au milieu des boîtes de cosmétiques, je distingue un vieux poche corné et annoté. L'amour au temps du choléra, de Gabriel Garcia Marquez.
C'est mon roman préféré, dis-je sincèrement.
Moi aussi, j'adore ce livre. Pendant quelques minutes, nous trouvons enfin un terrain d'entente, cette fille étrange et moi-même. Mais elle ne laisse pas cet état de grâce s'installer.
Et vous, ce soir, quel programme?
Noël est une fête familiale. Je prends le train dans une heure pour rejoindre mes parents et réveillonner avec eux dans leur maison des Hamptons.
Waouh, le fun! Pouffe-t-elle. Vous allez mettre vos chaussons devant le sapin et préparer une tasse de lait chaud au Père Noël?
Elle me regarde avec un petit air mutin et un sourire espiègle avant de lancer une nouvelle saillie.
Vous ne voulez pas déboutonner le col de votre chemise? Ça m'angoisse, les gens qui ferment le dernier bouton.
Je soupire et lève les yeux au ciel.
Et votre coiffure, là, ça ne va pas du tout, reprend-elle. C'est trop sage, trop figé. Oh, quel ennui!
Elle passe la main dans mes cheveux et les ébouriffe.
Je me recule, mais elle n'en a pas fini.
Et votre gilet, personne ne vous a prévenu qu'on n'était plus en 1930?
Pourquoi pas une montre à gousset tant qu'on y est?
Cette fois, c'en est trop.
Écoutez, si je vous déplais tant que ça, rien ne vous oblige à rester.
Elle termine son verre de vin et se lève.
Vous avez raison.
Je vous avais prévenu que ce n'était pas une bonne idée.
C'est ça, remettez votre cape de Batman et tirez-vous. Je déteste les gens de votre espèce.
Oh, vous n'avez encore rien vu, lance-t-elle mystérieusement.
Elle boutonne son manteau et quitte le café.
À travers la verrière, je la regarde allumer une cigarette, en tirer une bouffée et me faire un ultime clin d'œil avant de disparaître.
Je reste encore un moment à ma table, termine lentement mon verre de Bordeaux en repensant à ce qui vient de se passer. Je déboutonne le dernier bouton de ma chemise, ébouriffe mes cheveux, ouvre ce gilet qui me corsette.
C'est vrai que je respire mieux.
Je demande l'addition, fouille dans ma veste pour trouver de quoi régler, puis dans mon manteau.
Étrange.
Saisi par l'inquiétude, je retourne mes poches dans tous les sens avant de me rendre à l'évidence. Cette peste m'a volé mon portefeuille. Upper East Side, 3h du matin. Un bruit strident me tire de mon sommeil. J'ouvre les yeux, regarde l'heure. Quelqu'un est en train de passer ses nerfs sur la sonnette de la porte d'entrée. J'attrape mes lunettes sur la table de chevet et sors de ma chambre. La maison est vide et froide. À cause du vol de mon portefeuille, que j'ai voulu déclarer, j'ai loupé mon train pour Long Island et j'ai dû passer la soirée seule à Manhattan. Qui peut bien se pointer au beau milieu de la nuit ? J'ouvre la porte. Ma voleuse se tient sous l'auvent, une bouteille d'alcool à la main. « Mais c'est qu'il est sexy avec son petit pyjama !» me nargue-t-elle. Son haleine empeste la vodka. « Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous avez un sacré culot de vous pointer ici après m'avoir piqué mon portefeuille !» D'un geste assuré de la main, elle se crée un passage et investit l'appartement, titubant légèrement. Des flocons neigeux sont accrochés à ses cheveux. Où a-t-elle traîné par ce froid ? Elle traverse le salon et me rend mon portefeuille avant de s'écrouler sur le canapé. « Je voulais acheter votre vin, le château machin truc, mais je n'ai trouvé que ça, » dit-elle en agitant sa bouteille de vodka déjà bien entamée. Je m'éclipse un moment à l'étage et reviens avec une serviette et une couverture. Tandis que j'essaie d'allumer un feu, elle se sèche les cheveux et s'enroule dans le plaid avant de venir me rejoindre devant la cheminée. Debout à côté de moi, elle tend une main vers mon visage et effleure ma joue avec ses doigts. Je me relève doucement. Ses yeux brillent d'une flamme étrange et fascinante. Elle m'entoure de ses bras. « Arrêtez, vous êtes saoul. Justement, profitez-en, » me provoque-t-elle. Elle se met sur la pointe des pieds et approche sa bouche de la mienne. La pièce est plongée dans la pénombre. Le feu commence à prendre dans le foyer, diffusant une lumière fragile et tremblotante. Je sens l'odeur de sa peau. Elle s'est débarrassée de sa cape et je vois sa poitrine qui se soulève sous son chemisier. Malgré l'excitation, je ne suis pas à l'aise et j'oppose une ultime résistance. « Vous ne savez pas ce que vous faites. »« Tu m'emmerdes avec tes scrupules !» lâche-t-elle en m'embrassant avec fougue avant de me faire basculer sur le sofa. Projetées au plafond comme des ombres chinoises, nos deux silhouettes se fondent pour n'en faire plus qu'une. Lorsque j'ouvre un œil le lendemain, j'ai la tête lourde, les paupières collées et un sale goût métallique dans la bouche. Nikki a disparu sans laisser d'adresse. Je me lève et me traîne jusqu'à la baie vitrée. La neige continue de tomber, transformant peu à peu New York en ville fantôme. J'ouvre la fenêtre. Il fait un froid glacial. Le vent fait s'envoler les cendres dans la cheminée. Un manque insupportable me noue l'estomac. Hébété, je ramasse la bouteille de vodka. Vide. En reprenant mes esprits, je découvre une inscription tracée au rouge à lèvres sur le miroir Louis-Philippe du salon. Une antiquité dorée à la feuille que ma mère a payé une fortune lors d'une vente aux enchères. Je cherche mes lunettes, mais ne les trouve pas. Je me rapproche de la glace et découvre le message. Les seuls moments importants d'une vie sont ceux dont on se souvient.